Simplement, j'ai laissé venir à moi les idées qui me venaient à propos, par exemple, de l'expression « je t'aime ».
Ça fait réfléchir, l'émission philosophique de Radio Campus Amiens.
Bonjour tout le monde, vous écoutez Radio Campus Amiens 87.7 FM et nous nous retrouvons pour le cinquième épisode de l'émission « Ça fait réfléchir », l'émission philosophique animée par moi-même, Julien, votre serviteur. Cette émission sera disponible sur radiocampusamiens.fr et sur le DAB+. Pour commencer, je vous propose un bref rappel à propos des deux derniers épisodes dans lesquels nous avons discuté avec Justine, sexologue et thérapeute de couple au cabinet Victor Pochet à Amiens. Nous nous étions interrogés sur l'expression de la sexualité, sur les rapports entre sexualité et amour notamment, etc. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une thématique que ces fameux épisodes ont pu aborder de près ou de loin, à savoir la thématique du corps. Cette émission est un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une table ronde avec des collègues, toutes et tous professeurs de philosophie dans l'Académie d'Amiens. Nous sommes aujourd'hui avec Mathieu, Laure, Adé et Achille. On va discuter un petit peu, ils vont aussi nous présenter le résultat de leur réflexion sur cette thématique. Et donc nous avons choisi la thématique suivante qui peut se résumer ainsi, vivre son corps. Vivre son corps, qu'est-ce que ça veut dire ? En l'occurrence, avec l'expression « vivre son corps », nous nous plaçons du point de vue des êtres humains. Il y a donc une première question que l'on peut se poser d'emblée. Qu'est-ce qu'on peut entendre par « corps humain » et quelles sont les différences avec les autres corps ? Adé, il me semble que tu avais déjà une proposition à nous soumettre sur ce point de vue.
Oui, tout à fait. En fait, il me semblait que ta question en fait, présupposait déjà des choses qui sont un peu historiquement balisées, et notamment la distinction entre le corps organique et la chair, sous-entendu que la chair, c'est le corps qui sent. Peut-être que c'est ce que tu entendais par ta question, tu voulais peut-être qu'on commence par distinguer ça.
Oui, en fait, l'idée, c'était d'essayer de montrer la spécificité ou les spécificités du corps humain par rapport aux autres corps. Parce qu'on peut parler des corps en physique, on peut parler des corps animaux, etc. Est-ce que vivre son corps en tant qu'être humain, ça a une spécificité ?
Bah déjà, je pense qu'on peut dire, pour commencer, que le corps humain, il se vit lui-même, donc, puisque c'est le titre de l'émission, et qu'il se vit au travers de la conscience. On a conscience d'avoir un corps, on a conscience que notre corps fait partie de nous, qu'on fait partie de lui, mais qu'en même temps, on n'est pas dans une coïncidence exacte, dans le sens où on peut, dans une certaine mesure, en tout cas, dissocier ce qui arrive à notre corps de ce qui nous arrive à nous. Et c'est cette espèce de non-coïncidence exacte, mais qui est toujours une quasi-coïncidence avec son propre corps, je pense, qui distingue l'existence humaine et le vécu humain du corps.
Adé, il me semble que tu avais une question pour rebondir, je t'en prie.
Oui, effectivement, en fait, peut-être qu'on peut poser, peut-être provisoirement, que la spécificité du vécu humain du corps, c'est de pouvoir poser le corps comme objet devant soi, voilà, de pouvoir objectiver son propre vécu.
Est-ce que quelqu'un veut enchaîner ? Achille, je t'en prie.
Bah alors, pour reprendre en fait deux définitions qui ont été données, une par Laure qui était que c'est une non-coïncidence, mais qui est quand même une coïncidence, c'est que Adé, toi tu disais le corps est aussi vécu. Je pense que du coup ça amène à une autre idée, qui est une idée de philosophe, mais qui est une idée de la conscience du corps. Moi c'est ce qui m'intéresse un petit peu, c'est un peu comme ça que je le vois en tout cas à travers cette lecture que j'ai pu faire. Parce que le corps, justement, il y a quand même, tu parlais de perspective historique tout à l'heure, Adé. Pour moi, il y a une perspective historique qui est importante et qui a été très longtemps dominante en philosophie, c'est ce qu'on appelle le dualisme, c'est-à-dire d'un côté le corps, de l'autre côté l'esprit. Les deux, c'est pas pareil, et même souvent, le corps, en fait, c'est une espèce de fardeau, hein, une espèce de, c'est tout ce qui est matériel, ce qui nous retient les deux pieds sur terre, et l'esprit, c'est ce qui devrait nous permettre de nous envoler, mais on peut pas parce qu'il y a le corps. Bon, ça, c'est un peu l'idée qu'on a eue très longtemps. Bergson fait partie des gens qui, à la fin du 19e, début 20e siècle, avec aussi l'avancée des études psychanalytiques, psychologiques, etc., s'est dit il faut quand même dépasser ce dualisme-là, il faut quand même passer à autre chose qu'il y a le corps d'un côté, il y a l'esprit de l'autre. Mais il a développé sa vision de la conscience en disant que finalement, le corps, effectivement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas concevoir ni en opposition, ni en parallèle avec l'esprit, mais bien en contrepoint, peut-être plutôt. Et que donc, du coup, finalement, il y a le corps que l'on vit, il y a le corps qu'on ressent, et en même temps, il y a l'esprit. L'esprit, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous pousse à aller plus loin, il nous pousse effectivement à dépasser finalement notre rapport, on pourrait dire, un peu nécessaire, un petit peu utilitaire à la vie. Ça, c'est le corps, parce que le corps, il a faim, le corps, il a soif, le corps, il veut se reposer, etc. Mais en même temps, pour faire ce dépassement, il faut justement un moment se reposer aussi sur le corps. Le corps, en même temps, il imite apparemment, c'est-à-dire qu'il forme une limite qu'on ressent toujours, mais en même temps, peut-être qu'il va nous permettre de ressentir certaines choses, nous permettre d'accéder à certaines choses qui vont nous faire dépasser nos ressentis du quotidien, notre vision du quotidien, nos images du quotidien. Donc finalement, le corps et l'esprit vont ensemble. Parfois, ils ont l'air de se gêner l'un l'autre, parfois, ils ont l'air de se limiter l'un l'autre, mais au final, dans le meilleur des cas, ils permettent un dépassement et c'est ça qui peut être intéressant.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut revenir sur cette définition ? Mathieu, si tu veux intervenir.
Oui, donc je disais, moi, les conceptions traditionnelles en fait, du corps qu'ont développé la philosophie occidentale depuis notamment Platon, Platon qui développe notamment dans le Phédon, il me semble, la notion du corps comme prison de l'âme, etc. Certes, du point de vue de l'histoire de la philosophie, c'est quelque chose qui tend à être mis en cause. Je trouve que même si ça a l'air très abstrait, qu'on a l'impression que voilà, l'esprit, c'est un petit ange, il se balade en dehors du corps, c'est comme un peu un fantôme dans la machine, dans ces visions dualistes-là du corps-esprit. En même temps, je trouve que ça correspond à une expérience qu'on peut avoir tous les jours, et c'est ça qui m'intéresse dans ces conceptions-là, puisque, je sais pas, moi je pense à un passage de Sartre, qui, vous savez, même si vous n'avez pas fait de philo, vous savez très bien que Sartre, il était très laid, en fait. Et il se regarde dans la glace, il se fait « Putain, bah ouais, mon corps, c'est un obstacle, quoi. Je vois ma gueule, c'est pas moi. » Et ça m'intéresse vraiment, cette espèce de d'écart en fait entre un corps qui effectivement façonne notre identité, parce que bah oui bien sûr qu'on est notre corps, et de l'autre un corps qui n'est pas nous, parce que on est emmerdé d'être réduit à ce corps en fait. Et je trouve que les visions qui paraissent très idéalistes, très abstraites, qui font une scission entre d'un côté l'esprit et de l'autre le corps, sont intéressantes. Et je pense que même dans les analyses de Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc, où il parle d'un mec, enfin d'un petit gamin de 7 ans qui le regarde et qui pointe du doigt et qui fait Oh maman, un. Pardon. Non, mais je trouve ça intéressant, l'espèce de pont qu'on peut faire entre, d'une part, des auteurs qui vont être réutilisés dans la théorie critique la plus contemporaine et qui vont en fait récupérer, à mon sens, ce dualisme âme-corps, et d'autre part, des textes extrêmement classiques de la tradition philosophique, comme ce qu'a pu faire Platon. Enfin, ce pont qui paraît contre-intuitif m'intéresse personnellement.
C'est vrai que ce que tu dis d'ailleurs, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose. C'est que chez Platon, quand il dit que le corps, donc le soma, est une prison, séma, en fait, il y a un jeu de mots, parce que séma renvoie aussi au sens. Et donc, du coup, le corps est une prison, mais il est aussi un sens, il est porteur de sens. Et donc, derrière l'expérience que tu as rappelée, donc l'expérience que relate Fanon dans Peau noire, masque blanc, effectivement, c'est que notre corps porte un sens qui nous échappe, par ailleurs pour Fanon lui échapper, et qui d'un coup porte à la stigmatisation. Effectivement, là c'est une autre manière extrêmement traumatisante, ou au contraire exaltante, de devenir l'objet de quelqu'un.
On va peut-être revenir un petit peu sur la notion de corps dans un rapport avec l'actualité. On est en train effectivement de proposer une réflexion sur le corps en tant qu'il est objet de connaissance, le corps dans son rapport avec l'esprit. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose que l'on a un petit peu évoqué aussi, sont des problématiques sociales et politiques, hein, comme Mathieu l'a évoqué avec Frantz Fanon. Dans l'actualité aujourd'hui, pour trouver un petit point d'ancrage, il y a une certaine forme de revendication à l'égard de son corps. Il y a une revendication de pouvoir disposer de son corps, de pouvoir en jouir plus librement qu'autrefois, même si ce qu'on appelait libération sexuelle des années 70 en France notamment, d'une certaine façon c'était un petit peu du pipeau, parce que c'est quelque chose qui est encore extrêmement présent aujourd'hui. Et justement, Laure, il me semble que tu as fait pas mal de recherches sur le caractère politique, sur le caractère aussi, sur la dimension féministe du corps, et peut-être revenir sur le fameux slogan qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis aujourd'hui, « My body, my choice », donc « mon corps, mon choix ». Qu'est-ce que, Laure, tu en penses ?
Juste petit point de contexte, donc comme tu as parlé du féminisme donc des années 70, « mon corps, mon choix » ou autre version « mon corps m'appartient », c'est un slogan qui est né dans les années 70-80, au moment des luttes, donc pour les droits reproductifs, notamment donc, aux États-Unis, Et ensuite, en France, pendant les manifestations pour le droit à l'avortement. Donc, c'est un slogan qui a un contexte très précis, qu'il ne faut pas oublier, sinon on ne comprend pas du tout. Il faut déjà se rappeler, premièrement, que c'est donc une époque d'émancipation pour les femmes. Et le contexte social, c'est un contexte, du moins de la façon dont il est analysé par les féministes radicales, c'est une réponse, ce slogan-là, mon corps, mon choix, c'est une réponse à l'appropriation et à l'exploitation du travail domestique, notamment du système social dominé par les hommes, donc le patriarcat. Ce slogan-là, c'est une réponse, une revendication en face de cette société généralisée qui désapproprie, on peut dire, les femmes de leur propre corps, qui le met au service dans le couple hétérosexuel, service sexuel, service de soins, service d'éducation des enfants. Donc le corps des femmes est mis au service des hommes et aussi de la société de manière générale.
D'accord, donc à ce niveau-là, il y a une véritable problématique du corps. Est-ce que la question de l'âme, de l'esprit, de ce dualisme-là dont Achille a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est encore quelque chose qui est à la mode aujourd'hui dans le féminisme ou c'est vraiment quelque chose qui est centré plus ou moins strictement sur le corps ?
Ce qu'on doit au féminisme et aux penseuses, aux philosophes féministes, notamment Simone de Beauvoir, il y a un apport des penseuses féministes de ce point de vue-là qui s'oppose complètement à cette scission entre le corps et l'esprit. Cependant, et c'est la critique aujourd'hui qui est assez vive, c'est qu'en fait, mon corps, mon choix, c'est un slogan qui, quand on l'analyse, a un fondement libéral. C'est-à-dire que ça repose sur une conception de la propriété et donc ça en vient à considérer son corps comme un objet de choix, comme un objet de jugement, donc décorrélé en fait de l'esprit qui juge, ça pousse à une conception où en fait mon corps il m'appartient pas au sens où tout ce qu'on fait à mon corps on me le fait à moi, qui est pourtant l'esprit du slogan à l'origine, d'accord, dans le contexte, etc. Mais plutôt à l'idée que puisque c'est mon corps et qu'il m'appartient comme une propriété, je suis le seul ou la seule à pouvoir décider de ce qu'on lui fait. Sauf que du coup, ça promeut une vision individualiste du corps, alors qu'on sait très bien que le corps, il est pris dans des logiques sociales, dans des logiques politiques de santé publique, etc. Et que ça n'a pas de sens de dire mon corps, mon choix quand, par exemple, des maternités ferment en France, quand la santé, quand il y a de moins en moins d'argent pour la santé, etc. Donc voilà, les critiques de ce slogan-là, elles sont orientées vers cette... justement cette orientation libérale qui en fait décrit aussi une sorte de tournant qui justement après les luttes très sociales on a des revendications de plus en plus individualistes et en fait c'est pas le sens du combat pour la reconnaissance de notre propre autonomie par rapport à notre corps, de le ramener à des convictions et un droit individuel sur son propre corps.
Je vais me permettre de répondre à la question que tu as posée à Laure aussi, et pour rebondir exactement, parce que avec tout ce que tu as dit, Laure, à l'instant, sur justement cet aspect de l'appropriation du corps, mon choix, et donc les problèmes que ça peut poser dans une société capitaliste, etc. Et aussi, en même temps, répondre à ta question, Julien, sur le dualisme. Qu'est-ce que le dualisme ? Le corps peut avoir un aspect matériel et aussi un aspect spirituel. L'esprit peut avoir un aspect matériel et aussi un aspect spirituel. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a dans l'opposition entre matériel et spirituel ? Il y a l'opposition entre nécessité et dépassement. On pourrait dire ça comme ça. Et bien justement, je pense que la question « mon corps, mon choix », on peut l'interpréter des deux manières. Ça veut dire que je pense que, comme tu disais, quand c'est arrivé dans un certain contexte, un contexte de révolution sociale et sociétale, là, à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, c'est un élan qui se passe. Il y a un élan social et ça rejoint l'idée de « mon corps, mon choix ». Voilà, face à une société extrêmement violente, qui domine, etc., on a cet élan, on se révolte, on se dit « mon corps, mon choix, je m'approprie mon corps ». Et j'ai repris mon corps dans le bon sens, entre guillemets, dans le sens où vraiment, j'en fais un outil de ma liberté. Bon. Mais après, quand il y a un élan comme ça dans la société, quand la société est traversée par un élan, ce qui est très étonnant, c'est que le côté nécessaire, matériel, il revient après. Et il regagne tout cet élan, il le reconquiert. Peut-être qu'aujourd'hui, comment dire, l'expression la plus directe de la nécessité matérielle, qui est le capitalisme dans lequel on vit tous les jours, c'est en partie approprié aussi mon corps, mon choix. Et ça rejoint ce que tu disais, je crois, sur le libéralisme, etc. C'est-à-dire que mon corps, mon choix, finalement, aujourd'hui, c'est aussi très vite récupéré comme un slogan qui perd du coup ce sens qu'il avait au début, qui est un vrai instrument d'émancipation. Et au contraire, mon corps, mon choix peut être mis au service de certaines logiques qui vont être complètement, justement, de l'ordre de la nécessité matérielle et de l'ordre, encore une fois, de l'organisation capitaliste du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je prends deux exemples qui m'avaient frappé. Le premier, c'était une influenceuse qui s'appelle Polska, qui est une influenceuse assez suivie, etc., sur les réseaux, qui fait en gros son business autour de tout ce qu'on appelle les plateformes d'OnlyFans, etc. Toutes les plateformes où là, pour le coup, on va vendre son corps, entre guillemets, en tout cas des images de son corps. Et elle a fait une vidéo en disant, qui s'adressait aux jeunes filles, hein, explicitement, en disant « Mais franchement, les études et tout, ça ne sert pas à grand-chose. Vous êtes jeunes, vous êtes bien foutus, faites des vidéos comme moi, parce que moi, je gagne plus de 10 000 euros par mois. » Et là, vous voyez, c'est un exemple où elle prenait justement cette logique de... Et du coup, elle le disait, je ne crois pas qu'elle disait explicitement « mon corps, mon choix », mais elle prenait un peu cette logique de « voilà, vous êtes libre, vous avez un corps, votre choix, c'est de gagner de l'argent avec ». Alors, et on peut se poser la question, du coup, est-ce qu'à la fois... Et ça, c'est une question que j'ouvre, hein, à laquelle je ne répondrai pas, mais est-ce qu'à la fois, il y a vraiment une liberté de se dire « je vais utiliser mon corps et je vais en faire quelque chose », mais en même temps, j'en fais un pur objet commercial. Et il y avait aussi un autre exemple qui m'était venu, c'était... Enfin, c'est assez intéressant à suivre, c'est le STRAS, le syndicat des travailleurs sexuels, utilise beaucoup cette logique aussi pour dire que dans la société dans laquelle on est, à la fois patriarcale et capitaliste, tout rapport entre hommes et femmes, c'est au fond un rapport commercial. Hein, il disait même dans un couple marié, etc., la femme se vend à l'homme. Et du coup, bon, évidemment, c'est de la provoque, mais ils le disent quand même, ils disent bah, tant qu'à faire, puisqu'on se vend de toute façon, autant se vendre de manière explicite et vendre son corps. Pourquoi je dis ça? C'est donc du coup qu'en fait, c'est un peu comme si l'élan sociétal de mon corps, mon choix d'il y a 20, 30, 40 ans avait été regagné par toute la logique capitaliste contemporaine. Et donc, du coup, il y a les deux qui coexistent maintenant. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui disent ça comme un vrai élan de libération, mais aussi des gens qui vont utiliser ce slogan pour le récupérer à des fins commerciales, capitalistes, donc strictement utilitaires et nécessaires. Voilà un petit peu où je voulais en venir.
Oui, du coup, c'est juste une citation rapide qui fait justement exactement écho à ce que tu disais. Macpherson, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'individualisme possessif » et qui justement travaille sur ce lien entre l'individualité et la possession de soi, il écrit dans son ouvrage « La propriété n'est pas seulement le droit d'user ou de jouir d'une chose, c'est aussi le droit d'en disposer, de l'échanger contre une autre, bref, de l'aliéner. » Juste pour dire qu'à partir du moment où on considère son corps comme une propriété dont on peut user librement comme une marchandise, justement, il n'y a plus de limite, en fait. Et c'est comme on disait qu'au début, le corps, c'était un poids, c'était un fardeau dont il fallait se détacher, les vieilles doctrines. Et maintenant, c'est comme si le corps n'était plus limite du tout. C'est-à-dire qu'on pouvait en faire tout ce qu'on voulait et que ça n'avait pas de répercussions directement sur nous-mêmes en fonction de l'usage qu'on fait de son corps. Justement, il faut avoir une vision responsable, renseignée, etc. Ce qui, ne préjuge aucunement de ce que chacun fait de son corps, etc. Mais qu'il ne faut pas oublier justement que notre corps, bah, c'est nous. Et du coup, ce n'est pas une marchandise qui est extérieure à nous-mêmes. C'est tout.
Oui, tout à fait. En vous écoutant parler, j'étais à peu près sûre qu'on allait tomber sur la question du travail du sexe. Parce que le travail, c'est l'aliénation du corps. Dans toute forme de travail, demande le corps en action. Maintenant, peut-être que je joue un petit peu la contradiction. Alors, c'est très, très important de distinguer, effectivement, une version de libération, mon corps, mon choix. Donc, ce qui est vécu par moi, c'est à moi d'en décider, à savoir la grossesse, par exemple. D'une récupération par le capitalisme qui est mon corps, mon choix, j'en fais ce que je veux, il est à moi, c'est une propriété. Très bien de distinguer ça. Mais il ne faut pas aussi oublier que derrière, par exemple, là tout à l'heure, Achille, tu as parlé de Polska. Polska, c'est une jeune femme qui était en foyer et à 18 ans, elle a été foutue dehors. Et elle s'est un peu retrouvée par nécessité à faire la manche et puis le OnlyFans. Pour ceux qui l'ignorent, c'est prendre des photos de ses parties intimes, des photos érotiques, pour les envoyer contre monnaie sonnante et trébuchante. Et donc cette pratique-là, ça a été une manière de sortir de la précarité. La dérive, c'est d'en faire un modèle, de dire aux jeunes filles, faites ça, on s'en fout des études. Mais en même temps, on est dans une période où il y a de plus en plus de précarité. La précarité étudiante est devenue un sujet politique. Et donc, dire « il y a de l'argent facile à se faire à des gens », ça a un sens, et ça a un sens libérateur extrêmement pervers, je l'entends. Mais il faut aussi, je pense, restituer son sens à cette parole libérale. Et derrière le discours de la propriété, il y a un discours de liberté. Ne pas être dans la condamnation trop brusque de ces jeunes femmes qui ont ce type de pratique.
la question que j'avais pour Laure, en fait, c'était de savoir si on pouvait substituer au slogan « Mon corps, mon choix » qui semble de façon intrinsèque et de façon inhérente négatif parce qu'il porte les scories d'un discours individualiste. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre de ce que tu disais, peut-être que ce n'est pas le cas. Est-ce que, du coup, on pourrait développer une vision positive qui dépasserait, du coup, les problèmes inhérents à « Mon corps, mon choix » qui me semblait porter des conséquences intrinsèquement négatives. Et du coup, moi, il me semblait que dans ton propos, en fait, il y avait quelque chose de beaucoup plus radical que ce qu'a dit Achille, finalement. Ce que j'ai compris de ce que tu disais, Laure, mais c'est peut-être erroné, hein, c'était qu'en réalité, même à la base, ce slogan, il ne pouvait que porter des conséquences négatives, parce que, en fait, cette conception individualiste du corps, par rapport à ce que c'est le corps dans la société en tant que telle, qui n'est pas juste l'objet d'une conscience, mais bien l'objet d'une société en tant que telle, il ne pouvait qu'apporter des conséquences négatives. Moi, je veux bien, mais du coup, je ne vois pas si on pouvait synthétiser en quelques mots, finalement, le slogan qu'il faudrait utiliser. Qu'est-ce qu'il faudrait substituer à mon corps, mon choix ? Voilà, c'est...
Il n'est pas disqualifiable entièrement ce slogan parce qu'il porte cette idée de la propriété. Je pense que c'est pas ce que j'ai dit. Et même au début, j'ai bien commencé par le contexte qui est... En fait, ce slogan, il est indispensable pour revendiquer l'autonomie de gestion du corps propre des femmes vécues comme telles, etc. Par contre, et là-dessus, je pense que je rejoins Achille un petit peu. C'est-à-dire que ce slogan, il a du sens qu'en opposition. Il n'a pas de sens comme revendication positive, parce qu'on sait très bien, mon corps, mon choix, ça apprend rien. Si on continue à utiliser ce slogan, justement, dans une société où tout est déjà individualisé à fond, il a beaucoup moins de sens. Ce slogan, il a été réutilisé par les anti-vax au moment de la crise du Covid. Mon corps, mon choix, on l'a vu en manifestation, parce que il y a cette idée de libéralisation extrême de ce qu'on fait de nos corps. Et ça... C'est un problème parce qu'il y a une responsabilité collective de ce qu'on fait de nos corps, des choix qu'on fait pour nous-mêmes. Ils n'impliquent pas toujours seulement nous-mêmes. Si on refuse de vacciner son enfant à l'école, il peut tomber malade, il peut contaminer d'autres enfants. Par exemple, aller en manifestation féministe et se dire ça suffit, par exemple, de juste dire mon corps, mon choix, c'est une revendication. En fait, c'est plus une revendication. Les vraies revendications, c'est les revendications pour l'éducation publique, pour la santé. En fait, il faut se battre pour des systèmes dans lesquels nos corps, ils arrivent à se maintenir. Parce qu'on sait que le corps, il n'est pas autonome. On sait que justement, grâce aux philosophies du milieu, etc., qui expliquent bien comment le corps, il interagit. Parce que le corps vécu, c'est toujours un corps qui est vécu justement en interaction. On vit son corps avec plein d'interactions avec le milieu extérieur. Et non, on est dans un milieu social. Donc forcément, le corps individuel, il n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens de dire « j'ai le choix absolu sur mon corps » quand les structures sociales qui sont censées assurer ce choix-là sont complètement délabrées. Donc c'était plutôt ça que je voulais dire.
C'est sur ces mots que se termine le 5e épisode de l'émission « Ça fait réfléchir ». Nous nous retrouverons dans 2 semaines, toujours le mardi à 10h. Je vous remercie à tous d'être venus.
Merci à toi, Julien.
Aussi, je veux remercier tout le monde pour votre écoute et vous pouvez toujours retrouver cette émission sur le site de radiocampusamiens.fr et sur le DAB+. C'était Julien, votre serviteur pour votre émission philosophique. Nous nous quitterons en musique. Au plaisir de vous retrouver et à bientôt.